Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Ce soir, nous sommes avec Nadine, Zoé, Eddy de l'association Tangible. Et puis, Josette et Arlette qui ont participé au projet Prendre la route, dont on va parler ce soir. Donc, bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue à la radio. On va parler de ce projet Prendre la route, qui a eu lieu l'année dernière et puis qui aura encore lieu et qui a lieu en ce moment, j'imagine, en 2024. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu rapidement de l'association Tangible ? J'ai cru comprendre que c'est une association de pratiques photographiques, mais pas que, et qui véhicule une certaine ouverture au monde et aux autres. Comment vous la présenteriez avec vos mots ?
Bah, je vais prendre la parole. Nadine Barbançon, moi je suis photographe. Et cette association, on l'a montée en 2015, donc ça fait déjà presque 10 ans, autour de la photographie essentiellement, de la pratique photographique et des projets qu'on monte autour de la photographie, de la formation et de la création. Au départ, c'était une association qui portait essentiellement mes projets à moi. Et comme je viens du monde collectif, voilà, j'ai eu un parcours long avec la structure qui s'appelle Un euro ne fait pas le printemps, et puis initialement aussi avec le groupe O. J'ai toujours travaillé à plusieurs avec des gens qui faisaient d'autres choses que de la photographie, j'ai toujours aimé ça. Et puis quand on a démarré, voilà, j'avais besoin moi de m'axer vraiment autour de la photographie, et puis d'année en année, j'ai réouvert des complicités avec d'autres artistes qui font du son, qui font de l'écriture. Voilà, essentiellement du son et de l'écriture. Et puis, du coup, il y a un groupe conseil d'administration qui s'est rassemblé autour de ce projet. Voilà. Et donc, depuis 10 ans, bah, c'est une association qui a beaucoup grandi, vraiment beaucoup, qui aujourd'hui accueille d'autres photographes, tout doucement, comme Mabeille Dem, par exemple, qu'on accueille autour de temps de formation. Et puis, voilà, peut-être d'autres. On est vraiment en reconfiguration, doucement, pour ouvrir encore et élargir cette association autour de la photographie, qui est autour de la photographie professionnelle, plutôt sur des questions de société, mais aussi sur des espaces de formation. Donc il y a des ateliers, il y a notamment un groupe de photographes amateurs qui s'appelle l'Atelier des photographes, qui aujourd'hui a pratiquement son autonomie dans l'association, et c'est un groupe qui s'ouvre très régulièrement. Cette année, par exemple, on a proposé 6 workshops sur l'année avec moi, avec d'autres photographes, par exemple comme Mabeille Dem, comme Florence Brochoir, qui est une photojournaliste du Monde de Libération, qui est venue un week-end. Et donc, ça permet de rencontrer des nouveaux photographes qui rejoignent la dynamique collective, quoi. Voilà.
Et vous êtes combien de membres dans cette association ?
Alors, de membres adhérents, ou je ne saurais même pas dire, on va dire une quinzaine assidus. Et puis d'autres qui viennent de temps à autre sur les formations. Et puis dans l'équipe, il y a Elisabeth, qui travaille plus sur la question de l'administration. Et puis Laure Nicoletzé, qui, elle, nous aide aussi sur la production. Voilà, il y a 2 salariés, plus moi. Voilà.
Oui. Et puis il y a un groupe satellite, qui est celui du groupe des photographes amateurs, en fait, hein, qui est encadré. Et on est, j'en fais partie moi-même, on est une douzaine, une quinzaine, selon les ateliers.
D'accord, donc ça s'ouvre un peu comme ça à des publics plus larges, avec les formations et l'atelier de photographie amateur.
Oui, il y a un recrutement auprès de personnes qui sont passionnées par la photo.
Mmh. Eh bien, donc ce soir, on va parler du projet Prendre la route. C'est parti.
Thank you.
plus.
Regardez, c'est clair.
Dans 800 mètres, restez à droite à l'embranchement pour continuer sur A9, Pékin, suivre Barcelone, Toulouse.
Voilà, moi, je me souviens d'une fois, on était parti avec ma fille. C'est au début qu'elle était mariée. Elle s'est mariée très jeune, elle avait 18 ans, avec son mari. On arrive là à l'embranchement, on lui dit on va sur Marseille faire un tour. Parce qu'on partait comme ça, hein. Moi je suis comme ça. Arrivé là, le mari de ma fille me dit « Et si on allait manger une glace à Barcelone ?» On est parti manger le soir à Barcelone.
Mais non.
Oh, ben, pas de valise, pas de rechange. Comme ça. Mais c'était ça qui est drôle dans la vie.
C'est génial.
C'est ça qui est drôle dans la vie. Arrive à l'embranchement, elle dit « Allez, on va manger une glace à Barcelone ce soir. » On est parti. Bon, il faut pas croire, j'étais pas très sérieuse.
C'est vrai.
Pas niveau fréquentation, mais j'étais toujours partante pour des trucs comme ça.
Mais vous voyez, je me disais ça. Quand on est partant toute sa vie, on est partant jusqu'au bout de sa vie.
Oui. Il suffit de me dire on y va, je dis ok.
C'est ça. Franchement, vous m'avez épaté hein, quand on est venu vous voir la première fois. Quand je vous ai dit si je vous emmenais quelque part et vous m'avez dit banco tout de suite, quoi. Alors qu'on se connaissait même pas, vous avez sacrément confiance.
Mais c'est pas... On me dit on part. Bien sûr, je pars. Plutôt deux fois qu'une.
C'est génial.
Mais j'ai toujours été comme ça.
Ouais.
Vous êtes vieux dans votre tête. Ouais. Vous n'êtes pas tellement vieux dans vos jambes. Vos jambes, vous les ferez toujours en fait marcher. C'est dans votre tête que vous êtes vieux. Si vous n'êtes pas vieux dans votre tête, vous ne serez jamais vieux. Si dans votre tête, vous restez jeune, plein de mordants, dire je suis prêt à faire des tas de choses et tout, vous y arriverez. Hein.
On vient d'écouter un extrait de Devine où je suis, un documentaire sonore réalisé par Delphine Prat et Nadine Barbançon, ici présente, dans le cadre du projet Prendre la route. Alors, Prendre la route, c'est un projet qui s'est déroulé l'année dernière et qui se redéroule cette année, comme je l'ai déjà dit. L'année dernière, c'était à travers des résidences dans le Vercors, il me semble.
Et à Grenoble.
Et à Grenoble, d'accord. Et donc, vous avez rencontré des résidents, des personnes âgées qui faisaient partie de ces résidences, et vous avez organisé des voyages avec ces personnes. Et ça a aussi abouti à des créations sonores et photographiques. Josette, vous étiez vous avez fait partie d'un des voyages l'année dernière.
Ah oui, je suis allée dormir dans une cabane dans les arbres.
Dans les arbres.
Oui, carrément.
Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça s'est déroulé un peu ?
Oh, ça s'est très très bien passé. Vraiment, j'ai passé un moment merveilleux.
C'était une nuit...
C'était quelque chose que j'avais envie. Et puis avec...
Nadine,
ça a été un projet qui s'est monté. Et j'ai dit tout de suite oui. Mais vraiment, c'était à faire.
Est-ce que tu peux nous redire comment tu as eu cette idée ? Parce que l'idée, c'est que c'est toi qui as eu envie de dormir dans une cabane.
Oui, c'est moi. Quand elle nous a demandé ce qu'on voulait faire, j'ai dit « Oh, j'aimerais aller dormir dans une cabane dans les arbres. » Et le projet s'est fait. Et on y est allé.
Et comment tu as eu cette idée, en fait ? Tu te souviens comment tu as eu cette idée ?
Oui,
comment
parce qu'à la résidence, on était en train de faire des dessins sur des cabanes, ce que les enfants faisaient avant, des cabanes dans les bois. Alors ça m'a refait penser que quand j'étais toute petite, mon papa nous faisait des cabanes. Alors c'est pour ça. Alors on a passé une journée vraiment formidable.
C'était loin ? T'as senti que tu partais loin ?
Non, c'était pas loin.
Est-ce que 40 km c'est loin ?
Non, ça faisait pas loin, 40 km.
Ça dépend si on se sent voyager ou pas.
Ah ben là, oui, ça me faisait un voyage pour moi.
Est-ce que tu as toujours été une voyageuse ?
Oui, j'aime bien sortir.
Ça sert à quoi pour toi, ce voyage ?
Ben, ça redonne de la vie. Ça redonne carrément de la vie et puis c'est agréable, on voit beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses, surtout à l'heure actuelle. Hein. Parce que quand même, on est pris par le temps. Hein. Alors là, oh non, c'est formidable.
Là, ça t'a vraiment reboosté.
Oh oui, oui, oui. Oh là, malheur. J'ai jamais bien, aussi bien dormi. Alors...
Et Nadine, vous avez donc... vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je suis allé voir hier Josette, moi, pour lui rendre visite. J'étais très pressée, en fait, Josette, mais vous ne le saviez pas.
Oui.
Et au moment où je pars, elle me sort un paquet de 300 photos à regarder.
Ah, oui.
Je me suis dit, mais jamais j'arriverai à remplir mon carnet de rendez-vous avec les 300 photos à voir. Donc j'en ai vu, mais voilà. Josette, elle avait des étincelles dans les yeux.
Là, là.
De toutes ces photos que Nadine a prises. Qui sont magnifiques,
ouais,
qui montrent vraiment un moment de bonheur. Ouais. Et là, vous m'aviez dit, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi.
Ah oui, oui, oui.
Et voilà, je ne me suis pas réveillée.
Réveillée du tout.
Voilà.
On s'est couché, c'était 11h à peu près, 10h30, 11h. 10h30, 11h, jusqu'à matin 6h, je n'ai pas bougé, que d'habitude je me lève.
Et moi, je crois qu'en tant que médecin généraliste, ma prescription, elle va être d'aller dormir dans des arbres.
Oh là, malheur.
Avec Nadine.
Ah oui, oui.
Ce
on s'était bien
oxygéné.
Remède.
Hein.
Vous êtes le médecin de Josette.
Oui.
Oui, on s'est connus depuis longtemps, depuis une trentaine d'années.
Oh oui, largement.
Soignait
maman.
Et ma connaissance de Nadine, ça a été justement au travers de Josette.
Voilà. Emmenant au foyer.
Voilà, oui, ça a été de voir une exposition de Nadine, de voir Josette en photo, dans des photos qui étaient...
Ah oui, on a des belles photos, là. Photos du casino du Riage.
Voilà, des photos qui étaient assez surprenantes et très belles, avec plein de vie dans ces photos. Et voilà, donc on a entamé une discussion avec Nadine... qui m'avait dit, si vous aimez la photo, si vous aimez faire des photos, venez à mes groupes.
Ouais,
et moi, j'avais un peu ricané en disant, si c'est lundi matin entre 10h et 12h, je pense que je n'aurai pas le temps. Et en fait, non, c'est les samedis, dimanche.
Ah, oui.
Ce qui était fort dans ce que tu avais raconté, Eddy, c'est que quand tu es venue, parce que là, c'était l'exposition d'un travail précédent qu'on avait fait sur l'autoportrait, où chacun imaginait soi-même dans un certain univers. Et donc, effectivement, il y a... Trois dames que j'appelle mes mémés, les trois mémés flingueuses au casino, qui est devenue une image qui est maintenant à l'artothèque qu'on peut avoir dans son salon, ou Josette qui est sur une moto, ou voilà. Et je me souviens d'Eddy qui avait été extrêmement surpris de la représentation en fait de personnes qui étaient ses patients. C'est ça que tu m'avais dit, et que tu les avais jamais imaginés comme ça, quoi.
Oui, oui, moi ce que je disais, hein, c'est que les résidents du foyer.
Oui, d'un foyer, oui.
Du foyer
vrai.
Qui sont âgés, qui m'appellent pour des soins.
Oui.
Finalement, je n'ai vu que le côté des soins.
Oh,
et
bon côté.
Le côté, mais pendant des années et des années dans le soin.
Oui.
Et du coup, je les découvre, Josette, et puis d'autres personnes. Dans des photos, dans des mises en scène qui sont très drôles, très touchantes, très attachantes. Et ce que je disais à Nadine lors d'un colloque là, sur l'éthique, c'est que finalement, la vision pluridisciplinaire de gens dans un aspect qui n'est pas que dans le soin, qui peut être dans l'amusement, qui peut être dans la passion,
dans le bien-être,
c'est vraiment la vision de la vie fait.
Hein.
Et le fait qu'on mélange à tous nos visions, celle de l'art, celle de la vie, celle du quotidien, celle du soin malheureusement parce qu'il y en a besoin aussi.
Ah,
c'est vraiment ce qui nous fait toute notre humanité.
Oui.
En tant que médecin, ça pourrait vous aider, ça vous a aidé d'avoir une autre vision des personnes que vous soignez?
Oui, j'ai beaucoup souvenir d'un monsieur que j'ai vu beaucoup, qui malheureusement est décédé, et que Nadine avait représenté dans un château, une vraie plume à la main en train d'écrire. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais elle est magnifique, vous êtes très beau sur cette photo. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a sorti des dizaines et des dizaines de poèmes que je n'avais jamais vus, alors que ça faisait 10-15 ans que je le soignais. Il m'a sorti tous ses poèmes et à chaque fois que je revenais le voir, il me montrait des poèmes et tout et tout. Donc, effectivement, j'ai découvert d'autres aspects, à la fois parce que les personnes étaient peut-être plus amenées à, plus confiantes, plus amenées à me montrer d'autres parties intimes de leur vie, et que moi, j'étais devenu beaucoup plus curieux aussi.
Ah ben oui, ça aide.
Est-ce qu'avoir un lien différent avec le médecin, ça permettait un meilleur suivi?
Oui.
Est-ce que c'était plus...
Bien sûr. Bien sûr, on peut lui confier tout ce qu'on a sur le cœur. Puis il connaît la famille et tout. Alors, c'est agréable.
C'est un ami de
longue date. Et puis, on l'aime à la résistance. C'est dommage. Il y a beaucoup de personnes qui le voudraient, mais malheureusement, il ne prend plus de clients. C'est ça.
Vous allez faire des jaloux.
Oh oui. Oh oui, on en fait déjà.
Et du coup, moi, je voulais vous poser une question, Nadine, par rapport au thème de la vieillesse. Parce mm-hmm. que vous avez, dans Prendre la route, vous plongez dans ce thème-là. Et dans un autre projet dont vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez aussi exploré un petit peu avec le quotidien, comme vous disiez, au casino, le projet du casino. Est-ce que c'est un projet que c'est un pardon est-ce que c'est une thématique que vous abordez exclusivement? Est-ce que
enfin oui et non, c'est la vie qui veut ça parfois. Après, comme je dis souvent en rigolant, il faudrait que j'en parle à mon psy, mais oui, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais pratiquement chaque année un projet. Alors souvent on parle de personnes âgées, moi c'est un mot que j'emploie peu parce que je le trouve compliqué à dire. Et que je préfère largement le mot vieux, parce que tout à l'heure, Eddy parlait de la vie, et que dans le mot vieux, il y a d'abord le mot vie, voilà. Et que pour moi, c'est du présent, voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, et que j'essaie de me réapproprier, qui n'est pas toujours facile à dire, parce que parfois, il est mal entendu, etc. Mais en tout cas, c'est un sujet que j'ai commencé un peu par hasard à la résidence au bord du lac, à Villeneuve. J'avais fait un stage avec un grand photographe, je suis arrivée là, j'ai passé 2 jours. Et j'ai tout de suite eu envie de revenir, de créer du lien avec eux, de proposer un projet qui a eu lieu. Et donc là, c'était en 2014, ça fait 10 ans déjà. Et il se trouve que chaque année, en fait, c'est moi qui reproposais des choses. J'ai l'impression que j'ai jamais terminé ce... Alors, j'aime pas trop le mot thème, pour moi, ça me parle pas. Mais en tout cas, de creuser quelque chose dans une relation, dans une... Et puis une question de la représentation, je fais pas que ça, je travaille aussi, on a fait un sujet avec Delphine Pratt et Marine Echel avec le local des femmes SDF sur Grenoble, j'ai travaillé 3 ans en résidence artistique sur le quartier qui s'appelait Village 2 à Échirolles en résidence pendant 3 ans, voilà, dans des univers complètement différents, avec des familles, avec sur la question de la mémoire que j'essaye parfois d'éviter. Donc il n'y a pas que ce travail-là, on va travailler sur la question de la montagne avec Jérémy Lamouroux l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser, c'est quelque chose qui m'apporte énormément dans la rencontre avec les personnes. Et puis, je ne sais pas, je trouve que le monde dans lequel on vit, il est totalement opposé au fait qu'on vieillisse. Et il est fait pour qu'on ne vieillisse pas, il est fait pour qu'on fasse croire qu'on n'est pas vieux, qu'on met des crèmes L'Oréal parce que je le vaux bien, parce que les rues ne sont pas faites pour... à chaque fois qu'on parlera du projet Prendre la route, mais quand on va quelque part, il faut savoir si on peut y aller vraiment. C'est-à-dire si on peut y aller vraiment avec quelqu'un qui marche pas bien, qui a des problèmes d'équilibre, qui peut se stresser parce qu'il y a du bruit. Comment est-ce qu'un déambulateur passe là, en venant ici, voilà, une voiture qui s'était mal garée, le déambulateur, il passe pas. Donc il faut trouver des stratégies. Et je trouve que voilà, nos espaces ne sont pas faits pour nous imaginer vieux. Et donc ne sont pas faits pour nous vieillissants. Alors qu'on est tous le vieux de quelqu'un et qu'on sera tous vieux demain. Et que, enfin voilà, ça fait partie de nos vies. C'est un absent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et dans les représentations, parce que je suis photographe, je trouve que on est pauvre, quoi. On est vraiment mauvais, quoi. En fait, à chaque fois, je le dis, je me répète, mais dans cette espèce d'échelle des représentations sur la vieillesse, d'un côté, il y a les images qui n'existent pas, des fausses images qu'on fait pour des banques de données. Donc, ce sont des modèles, des gens qui posent. Et quand vous regardez, vous faites un exercice sur Google, parce que c'est notre source d'images, n'est-ce pas? Vous tapez personnes âgées. ou senior, mieux senior ou aîné, ça c'est le mot qui marche bien, le mot clé. Et là, vous allez vous voir afficher un écran d'image, une planche contact, quoi, d'images qui se ressemblent toutes. Madame est en rose, monsieur est en bleu. Ils sont dans une image où le fond est très très lumineux, c'est très blanc souvent, beaucoup de lumière. Ils sourient énormément, ils jouent au tennis, ils sont avec tous leurs copains, ils sont heureux. Et ils sourient. Ça, c'est les images qui se répètent pour les caisses de retraite. Voilà, c'est des images qu'on voit de partout, sur les panneaux publicitaires, dans les magazines. Donc, on est nourri d'images qui nous disent, en gros, vieillir, ça veut dire être ça. Et si on n'est pas ça, bah, du coup, c'est qu'on n'est pas bien, quoi. Et donc, on fait tout pour ressembler à ça. Donc ça, c'est le poids du marketing, c'est le poids de l'économie, c'est le poids du capitalisme, c'est tout ça. Et de l'autre côté de l'échelle, il y a des images qui existent aussi, qui sont moins visibles, enfin dans la vision populaire, quoi. C'est toutes ces images qui existent et qu'il faut qu'elles existent, documentaires, d'une réalité de la vieillesse qui est extrêmement dure, qui est extrêmement violente, quoi. Des corps qui sont tout abîmés, tout pliés en deux, des gens qui perdent la tête. Voilà, des choses où il faut montrer, parce que c'est aussi ça, vieillir, c'est aussi perdre des choses, ou en tout cas avoir un corps qui se transforme. Et on a besoin de savoir ça, mais en même temps, c'est compliqué pour nous de se projeter dans ces images-là, de s'imaginer vieillir en disant, OK, on va être ce corps-là, cette femme-là, cet homme-là. Et je trouve qu'entre les deux, il y a un gap qui est énorme, quoi. Quelles sont les représentations qui existent de la vieillesse aujourd'hui, au quotidien, dans nos vies à nous, quoi, dans nos vues à nous, dans moi en train de vieillir, dans... Ben finalement, il y a un espace qui est énorme à remplir ou à essayer de créer. Des fois, je me dis, quand il n'y a pas d'image, c'est ça qui crée le tabou, en fait. Du coup, on n'en parle pas. On dit, ah mais non, mais t'es pas vieille, mais non, mais ça va aller, mais non, tu fais pas vieux, ou oh, mais qu'est-ce que vous faites jeune. En soi, ça veut rien dire, ces trucs-là. Ça... Mais on est dedans, moi la première, voilà. Quand je me regarde dans la glace tous les matins, j'ai 50 ans. Et ce qui est bien aussi, c'est quand je travaille avec des vieux, des vieilles personnes et des vieux, et ben quand je dis mon âge, on me dit, ah mais vous êtes une gamine. Alors voilà, moi ça me rassure.
Et c'est quoi l'intention, donc, toi, dans ton travail, que tu veux faire passer dans la représentation photographique ?
Je ne sais pas si j'ai une intention particulière. Ce que j'ai envie, parce que je crois que je ne sais pas faire autrement, c'est de faire avec. C'est-à-dire, on en parlait au colloque d'éthique, là, à Lyon, quand je suis intervenue, où il y avait plein de chercheurs et tout ça. C'est parler de la question de l'éthique, et je ne m'étais pas rendu compte que ce que je faisais, c'était aussi sans doute un peu de l'éthique, mais sans savoir, sans mettre ce mot là-dessus. Mais pour moi, par exemple, c'est pour ça, tout à l'heure, avant qu'on démarre l'émission, j'ai signifié que c'était la première fois que j'allais parler des vieux et des vieilles en étant en présence de voilà, Arlette et Josette qui sont là. D'habitude, c'est une situation qui me rend très mal à l'aise, parce que je n'ai pas à parler de personnes en leur nom ou à leur place. Voilà. Et que le travail que je fais, finalement, il essaye, en tout cas, de donner la parole ou d'imaginer que ça soit eux qui... à un moment donné, prennent ou vivent des choses à travers des supports qu'on maîtrise. Donc moi, la photographie, Zoé qui est là, plus autour du son ou de l'écriture. Mais l'idée, c'est vraiment de faire avec, quoi, de faire ensemble. Et ça, c'est... Je trouve que c'est... Voilà, la question de la photographie sociale, ce qu'on appelle la photographie sociale, c'est faire des photographies de ceux qu'on appelle les invisibles, alors que c'est nous qui sommes aveugles, mais peu importe, mais sur des sujets de société où les personnes sont en difficulté, qu'on essaie de défendre des situations, mais c'est aussi la photographie sociale, c'est aussi faire de la photographie qu'on appelle aujourd'hui collaborative, c'est-à-dire que c'est surtout ne pas prendre la place de l'autre. C'est une sacrée responsabilité de faire des photos des gens et d'aller les montrer. On parle des gens, eux. Je trouve que politiquement, c'est une responsabilité très forte quand on voit... Je ne vais pas les citer, mais parfois dans la PQR, dans la presse quotidienne, des photos renouvelées de quartiers où on voit toujours les mêmes trucs. Forcément, ça crée des représentations. Ça crée pour celui qui regarde une information qui est extrêmement stigmatisante trop souvent. Alors que si on laisse la place à la parole des gens eux-mêmes, forcément, le point de vue est extrêmement différent. Et ça, je trouve que la photographie et le son ont une force incroyable pour ça.
Et comment on fait concrètement pour laisser l'expression aux personnes qu'on aimerait qu'elles s'expriment ? Est-ce qu'on donne l'appareil photo à l'autre ?
Oui, on a fait plein d'expériences. Il y a plein de manières de faire.
Faut qu'on ait confiance. Mm. Quand on a confiance, on se libère. Mm.
Voilà, par exemple, là, le projet Prendre la route, si on doit parler de celui-là, mais il est... Avant qu'on prenne la route, comme on entend Jeanne, quand on a pris la route pour aller au bord de la mer, parce qu'on est allé au bord de la mer avec elle, dormir dans un bungalow, parce qu'elle voulait revoir la mer, il y a tout un temps de travail en amont, bien sûr, où on se rencontre, où on parle des souvenirs de voyage, on cherche les mots du voyage, à quoi vous fait penser le mot « voyage ». Il y a eu plein de choses où, par exemple, mais Zoé pourra en parler, du son. Si, je ne sais pas si tu veux en parler, Zoé.
En parallèle de toute la réflexion sur le voyage ou sur le déplacement et de partir de chez soi, Nadine montre des photos d'artistes pour montrer aussi le travail d'autres gens et de montrer la liberté qu'on peut prendre en création. Mmh. Et on utilise aussi des casques de très bonne qualité pour faire écouter des sons qui sont forcément différents de ce qu'on entend à la télé ou à la radio, et en même temps auxquels on n'a plus accès quand on vit dans un appartement ou une résidence en ville. Donc ça peut être des sons très banals comme le son des oiseaux, le son d'une rivière, et de montrer qu'en portant attention aux choses comme des petites gouttes qui font plic-ploc dans le lavabo, en fait, on porte un regard différent sur ce qui nous entoure. Et donc, on fait ce travail-là en amont avec Nadine pour déjà que les personnes avec qui on va travailler portent attention.
Sont en confiance.
Et ça montre aussi que nous, on fait attention aux gens, que ces gens-là font attention à nous, et ça crée au fil de ces séances une relation particulière.
Mmh. Donc en fait, pour vous, la photographie, le son, c'est à la fois un outil de création, mais c'est aussi une manière de créer un lien.
C'est un outil de création et de relation. Ça fait slogan, mais en fait, c'est hyper important. Ouais.
Oui, c'est vraiment comment on se regarde. Comment on se regarde, nous, oui, comment on se regarde soi-même. Par exemple, là, on a rencontré une dame avec qui probablement on ne partira pas, parce qu'elle n'est pas sortie de chez elle depuis 2 ans. Qui est dans un isolement assez total et qui ne sait pas regarder dans un miroir depuis 2 ans. Et parce qu'elle ne veut pas. Elle a un peu de soins, je ne sais pas s'il y a des toilettes un peu, mais voilà. En tout cas, elle ne veut pas voir son image. Donc l'idée d'être photographiée, c'est quelque chose qui est impossible. Mais par contre, du coup, tenant compte de ça, la photographie, par exemple, c'est quelqu'un qui ne se lève pas, elle est dans son canapé, elle ne se lève pas pour aller à la fenêtre. Elle n'est pas sortie depuis 2 ans, à chaque fois qu'on la voit, elle est assise au même endroit du canapé, et elle ne bouge pas. Et donc, par exemple, on est rentré un matin et il y avait les lilas en fleurs dehors. Et donc, je lui en parle. Et puis, elle ne pouvait pas les voir puisqu'elle ne pouvait pas aller à la fenêtre. Et donc, je suis allée à la fenêtre, j'ai fait une photo du lilas vu d'en haut. Et je suis venue et je lui ai fait voir l'écran et on a parlé du lilas qui était en fleurs. C'est des choses toutes simples comme ça. Il y a des sons qu'on vous a communiqués aussi, qu'on pourrait peut-être écouter, qu'on va peut-être écouter d'ailleurs. Mais oui. Je trouve que la photographie, c'est un bon prétexte pour... c'est toujours un prétexte pour accepter son image aussi, c'est-à-dire quand on a fait... Alors, il y a eu plein d'autres séries, hein, aux Alpins, j'ai fait beaucoup de projets, plusieurs projets, mais d'arriver à se regarder soi-même autrement, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Après, voilà, les appareils, c'est des choses... j'ai acheté un Sony que je trouve encore trop lourd, mais que j'ai un peu customisé, parce que du coup, j'ai mis un bouchon en liège dessus, sur le déclencheur, pour qu'on puisse mieux l'attraper. Il y a des choses comme ça, avec un écran assez grand, pour qu'on puisse voir correctement, avec... mettre une vitesse très importante, parce que parfois les personnes ont des tremblements. Ouais. Donc quand ils font des photos, ça tremble. Donc si on veut une photo nette, il faut augmenter une vitesse. C'est tout des paramètres, comme quand on voit pas bien, on met des lunettes, quoi. On adapte.
Mm-hmm. Et puis c'est aussi beaucoup de discussions, parce que au début, ça peut être intimidant de se saisir de cet appareil. Donc ça va être des discussions. Qu'est-ce qui représente quelque chose d'important pour vous? Et donc, au début, ça peut être Nadine qui va faire la médiation entre la personne et l'appareil. Et puis, en fait, dans la confiance, comme dit Josette, soudain, la personne se saisit de l'appareil et fait elle-même et se décale elle-même de son regard quotidien pour voir les choses différemment.
Ouais, ouais. C'est aussi une façon en soi de voyager, de voir les choses autrement. Déjà, de juste la photographie.
Oui, l'idée, c'est qu'on parle du voyage, comme c'est, quand on en parle, c'est un peu abstrait avec eux. Enfin, on regarde des photos, c'est du verbal, quoi. Et ensuite, on passe à un moment où on écoute des sons, on regarde des livres. Et on, par exemple, avec plusieurs personnes, là, on ne l'avait pas fait avec les Alpins, là, on l'a fait cette année. L'idée de mettre en pratique le fait de faire des photos, c'est-à-dire de regarder déjà quand on fait des voyages, on est dans le voyage et on fait un truc qui se passe, il y a tellement plein de choses qui se passent qu'on regarde déjà. Et déjà de prendre le réflexe de dire « Ok, je vais prendre mon appareil pour faire une photo de ce qui se passe, pour le garder, pour s'en rappeler, pour faire voir à sa famille. » c'est un geste qui n'est pas évident. Donc, c'est des choses qu'on met en pratique au départ, d'abord avec un Polaroid et puis ensuite avec le petit Sony. Et avec Josette aux Alpins, on était en correspondance avec Sarah Benbeda, qui est une jeune femme qui est partie en bateau stop au Brésil, qui nous envoyait des capsules sonores qu'on écoutait, tu te rappelles ? Et du coup, avec Delphine Pratt, ensemble, vous refabriquiez une carte postale sonore de la maison. Donc le bruit de l'ascenseur, le bruit...
Des pas,
ouais. Voilà, dans l'escalier, des choses comme ça. Et on avait écrit une lettre qui a été lue et qu'on a réenvoyée à Sarah, qui était sur son bateau voilier au milieu de l'océan. Mais c'était déjà une manière de voyager.
Et de la faire voyager aussi,
sûrement. Oui. On était partis avec elle.
Ah oui, je trouve ça complètement fou, oui. Qu'une fille à 25 ans puisse prendre un bateau stop toute seule. Mais il y a beaucoup de choses sur le qu'est-ce que ça fabrique. Et puis, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Zoé, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des appareils photo dans nos téléphones, quoi. Et que c'est un outil formidable, vraiment, pour tout un chacun. On se pose beaucoup de questions en ce moment sur ce qu'on fabrique et qu'est-ce qui se passe après quand on s'en va. Et dans les établissements, par exemple, moi, je vais essayer de vraiment travailler là-dessus, sur donner des outils aussi aux familles ou... De dire, quand vous partez quelque part, pensez à faire des photos, parce que du coup, après, on les imprime, on les re-regarde, on en reparle, on fait des carnets avec, on peut écrire des choses. Et c'est
mais
fort.
Les photos, c'est aussi beaucoup lié, je trouve, au temps qui passe. Et du coup, à la question de la vieillesse, parce qu'en fait, j'ai l'impression, quand on prend des photos, c'est qu'on veut un petit peu garder un petit peu du présent et ne pas laisser filer le temps. Est-ce que tu dirais que c'est aussi pour ça que... T'as un fort intérêt pour les vieux. C'est parce que t'adores la photographie aussi et c'est forcément deux thèmes liés.
Je sais pas. Pour moi, c'est plus une histoire de dialogue. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça permet d'être en relation avec les autres. De vraiment faire voir, de donner à voir, de se souvenir aussi. Par exemple, il y a une personne dans le Vercors avec qui on est parti le matin. L'après-midi, elle s'en souvenait pas. Et donc, quand je lui en parlais, elle comprenait pas. Et quand je lui ai fait voir les photographies... Ben, du coup, voilà, ça remet en route quelque chose, ça recrée une mémoire qui s'était effacée, quoi.
Oui, tout à l'heure, moi, j'entendais Josette qui parlait de confiance. Et c'est pour ça que je disais que Nadine, c'était une photographe caméléon, en fait, parce qu'elle arrive à se fondre dans un environnement avec toute sa bienveillance, avec toute
sa gentillesse
et sa naïveté, en fait. Elle arrive, elle est naïve,
et
elle pose les bonnes questions, et puis les gens... pense à lui faire confiance et on a justement non pas des photos de vieux comme on en voit des millions et des millions hein, mais on a des photos avec les vieux en fait, c'est tout construit avec et moi
naturel.
Je vois ton travail sur le temps des possibles où en fait ce sont les personnes qui ont décidé de ce qu'ils voulaient faire avec toi, de la façon dont tu devais les prendre. Toi, tu étais vraiment la personne qui était là au bon moment à prendre les photos avec quand même un peu de facilitation, mais c'était des photos avec les gens, en fait.
C'est eux qui les construisent, ouais, l'idée, c'est ça. Après, si c'est moi qui, à un moment donné, vais mettre un flash en indirect et appuyer sur le bouton, mais par exemple, c'est la photo que moi j'appelle les trois mémés au casino, oui. Les trois mémés flingueuses. En rapport au film, évidemment, Tonton Flingueur. Mais l'idée, c'est voilà, c'est Angèle qui dit « Moi, j'aime jouer aux cartes. » Oui, mais où est-ce qu'on joue aux cartes pour gagner de l'argent? Oui, moi, je joue pour l'argent. Où est-ce qu'on joue pour l'argent? Au casino. Donc, il y avait l'idée de travailler sur les costumes, le décor, les accessoires. Voilà, on compose tout. Je me rappelle de Monsieur Chappuis, avec qui on est allé au Jardin des Plantes, parce que lui, il faisait des boutures. Et donc, il était à fond sur les plantes et tout ça. Et il y avait l'idée aussi d'aller découvrir des lieux un peu extraordinaires, un peu nouveaux, autres.
Tous.
et de faire un voyage déjà. Et donc au Jardin des Plantes, il a posé au milieu de... On a l'impression qu'il est dans la jungle alors qu'il est à Grenoble au Jardin des Plantes. Mais, et donc il y a des personnes de la résidence qui lui avaient cousu un tablier, voilà, pour la photo. Mais c'est lui, voilà, ça se construit ensemble. Et puis au moment où on y va, voilà, il fait un taux d'humidité de 98%, on a à peu près 4 minutes 30 pour faire l'image. Monsieur Chapuis avait vraiment des gros problèmes d'équilibre, etc. Oui. Donc voilà, ça parfois ça va très vite aussi sur les réalisations. Mais c'est l'idée. Moi jamais j'aurais eu l'idée de faire une photographie de Monsieur Chapuis au milieu d'une jungle, quoi. Jamais j'aurais eu cette idée-là. On l'a créé ensemble.
C'est une construction.
C'est une co-construction vraiment, quoi. Moi j'arrive, j'ai rien en fait. Enfin si j'ai envie. Ouais.
Eh oui.
Eh ben on va écouter Janine. Dont vous nous avez déjà parlé, il me semble.
Plus ou moins.
Plutôt dans l'émission.
Si on est sorti avec mon fils, on n'est pas allé loin, au coin du bureau de tabac, pour faire une photo d'identité, parce que mon livret était périmé. Alors mon fils m'a dit, tu vas pas aller voyager, bien sûr, mais c'est obligatoire, il faut le faire. Alors on est allé à pied tout doucement.
Et puis c'était comment? Pardon? Le fait de ressortir, ça vous a fait quoi?
Mais il faisait mauvais temps, puis il y avait des travaux tout le long. Vous savez, alors vous respirez cette poussière et tout. Bon, je languissais de revenir, vous voyez? C'était pas loin, 100 mètres.
Oui, c'était pas les meilleures conditions, par contre.
Non, ouais, ouais. Bien sûr. Oui.
Mais le fait d'être dehors, de voir ce qui se passe dehors, vous...
Oui, ça m'a fait plaisir, parce que... Je pensais que ça avait tout changé. Non, finalement, le bureau de tabac était en place. Le photographe était tout de suite à côté. Il y avait 3 marches à monter. C'était pas trop pénible, quoi.
Et c'était il y a longtemps, ça?
Il y a un mois, à peu près, oui. Un mois.
Parce qu'avant, ça faisait combien de temps que vous étiez resté à l'intérieur? Depuis combien de temps vous étiez resté dedans?
Des années. Je peux dire des années, parce que je ne sors pas.
Et comment ça se fait alors? C'est un choix? Qu'est-ce que...
Non, c'est pas un choix, c'est que ça se trouve comme ça. J'ai eu des périodes à l'hôpital aussi, alors tout ça, ça m'avait quand même perturbée, vous voyez. Alors j'avais hâte de revenir ici.
Oui, ici vous vous sentez en sécurité.
Ah, mais oui, c'est ça. Et oui, c'est sûr.
Et les volets, c'est pareil, c'est pour...
Pourquoi vous fermez les
volets? Les volets au rez-de-chaussée. En plein été, je peux ouvrir. Alors, bon, et puis il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que les volets, j'ai beau les plaquer, là. Ils s'ouvrent, et puis si quelqu'un passe qui est un peu grand, il prend le volet sur la tête et je suis responsable. On est assuré, mais tout de même... Faut éviter.
Ça vous inquiète aussi, ouais.
Et oui.
Bien ils doivent sûr. Pouvoir s'accrocher, peut-être, les volets. Non, ils ne s'accrochent pas?
Ils s'accrochent, oui, oui. Mais enfin, vous savez, le vent, quelquefois, est fort. Je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a... Enfin, c'est hier ou avant-hier. Un vent, mais alors, pas possible, hein. Oh! Il y a des gens qui avaient des pots de fleurs en haut, en face, et les pots de fleurs étaient tout en bas.
Comment vous savez, c'est quelqu'un qui vous a raconté ou vous avez vu?
Non,
comment
je vois. Mais comment à travers les... Je tire mes rideaux, je vois à travers.
À travers les volets?
Oui, voilà. Oh, ouais. Et oui, parce qu'il y a des petites fentes, là. Alors, comme on plonge, je vois, enfin. Ça me distrait un peu. Et oui.
Ça fait une petite fenêtre, quand même, la fente, hein?
Oui.
Ouais.
Et oui.
Fame o di depressione ipocondria o di delusione. Di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Giovane età, ormai in pensione, per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, male d'amore o un colpo di sole. Spoglie, nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte armati di sogni, aspettando che torni. La nostra vita
est de retour sur l'antenne de Radio Campus après avoir écouté cette conversation avec Janine dans le projet Prendre la route, puis suivi de I nostri giorni de Andrea Laszlo De Simone. Donc cette année, vous refaites le projet à l'abbaye. Donc toutes les deux, Nadine et Zoé, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le déroulement, comment ça se passe en fait dans la rencontre jusqu'au voyage ?
En fait, là, cette année, comme on est en résidence au Grand Collectif, qui se trouve quartier Abbaye, on a décidé de travailler en partenariat avec une structure qui s'appelle la FIPADOM, qui est une structure d'aide à domicile. Donc on est rentré en contact avec eux en leur proposant de faire tout d'abord une première étape de rencontre des auxiliaires de vie. Donc on a suivi des volontaires, une dizaine de volontaires auxiliaires de vie et aide à domicile dans leur métier. Avec des personnes âgées. Donc on est en train de finaliser des images et du texte autour de cette relation, d'aidant et d'aider. Ça, c'était une première étape qui nous a permis d'entrer en contact avec des personnes âgées, voire très âgées, qui vivent chez eux à domicile dans le quartier. Et ceux qui l'ont souhaité, nous recevoir à nouveau, sans les personnes auxiliaires de vie, nous y sommes retournés pour démarrer les ateliers dont on a parlé tout à l'heure, d'écoute, de découverte de livres, écoute de son. Voilà, on a fait multiples choses avec chacun d'entre eux. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on essaye d'imaginer ensemble une destination pour le faire pour de vrai. C'est-à-dire de dire, OK, on irait à tel endroit. Et chacun décide de là où il veut aller. Ça peut être, par exemple, dans le Vercors, il y a une dame qui était très âgée, qui était en fauteuil roulant, qui est allée simplement boire un café sur la terrasse du village. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas sortie. Bon, voilà, on a fait un voyage de cette sortie-là, qui a duré peut-être 2 heures, qui était totalement incroyable. Jusqu'à Jeanne, dont on parlait tout à l'heure, qui, voilà, quand je lui ai dit « si demain je vous dis et je vous emmène quelque part », qui me dit « banco » tout de suite. et qui, voilà, était très clairement voulait revoir la mer parce qu'elle adorait la mer. Et on est parti jusqu'à la mer, dormir en bungalow, voilà. Donc ça peut être des distances plus ou moins grandes. Notre budget ne nous permet pas d'aller à Chicago. Mais il y a quand même l'idée de ne pas se mettre de limite au départ, voilà. Là, par exemple, il y a un autre projet où une dame qui vit dans une caravane parce que voilà, sa culture veut qu'elle a toujours dormi dans une caravane. Donc, elle est dans un lit médicalisé et donc elle ne pourra pas, même si on a eu l'idée quand même de pouvoir peut-être l'emmener en caravane. Mais voilà, ça ne se fera pas. Mais par contre, on va faire un voyage par procuration. Et donc l'idée, c'est que parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas partir. Jusqu'à présent, on s'arrêtait là. Et là, on a décidé que ceux qui ne pouvaient pas partir, on essaierait tout de même de faire un voyage, quel qu'il soit. Peut-être de renverser le voyage, c'est-à-dire de faire venir le voyage à eux. Et là, on ira, voilà, en Haute-Marne, sur la tombe de son grand-père, amener une photographie qu'elle nous a donnée, que je suis en train de faire imprimer en durable. Et on va réaliser une cérémonie sur cette tombe pour elle, voilà, qu'on va filmer. Et on sera en direct, on va faire une sorte de road movie de Zoé et moi sur ce parcours. On va aller rencontrer des gens dont ils nous ont donné des noms, essayer de les retrouver. Donc voilà, l'idée, c'est de le faire pour de vrai. C'est ça qui est important dans ces gens qui parfois, pour plein de raisons, Jeanne l'expliquait très bien dans un des passages, toutes les raisons qui fait que, ou ce que tu disais, José, tout à l'heure aussi, on le fait de moins en moins, puis une fois, on est un peu tombé, du coup, on craint, et du coup, on le fait plus, et moins on le fait, et puis on le fait plus, voilà. Et du coup, dans tous les projets que j'ai pu faire, vraiment, cette idée de mise en mouvement, enfin, je vais le dire comme ça, de confiance, de prise de risque, on parle souvent ça au milieu médical, mais la question de la prise de risque, il y a moins de moments où on peut le faire. Souvent, notre entourage, je dis nous parce que peut-être je me sens déjà vieille, mais nous protège, c'est-à-dire les familles protègent, et c'est bien normal, les soignants protègent. Voilà, on met beaucoup de protection pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se faire mal, mais pour le coup, parfois, je trouve qu'il y a des hypothèses, voilà, qu'on peut, nous, voilà, on a cette chance de pouvoir être là pour proposer ça, et puis ça se fait pas, mais je trouve, voilà, c'est vraiment cette mise en jeu de sortir, d'aller voir ailleurs. Moi, franchement, cette dame qu'on vient d'entendre, quand je suis rentrée le soir, je pleurais dans ma voiture parce que ça fait 10 ans que je fais ça, mais là, tu vois, ça fait des années qu'elle n'est pas sortie, qu'elle a toute sa tête. Physiquement, elle pourrait très bien aller s'asseoir au bord du lit. Et elle a les volets fermés, elle vit dans le noir. Et c'est une femme remarquable. Mais du coup, on ne sait pas. Il y a des choses qui font que... Familial aussi, un isolement total. On en parlait avec Zoé. Hein, mais la question de l'isolement, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des isolements, mais qu'on n'imagine pas, quoi. Et encore une fois, les auxiliaires de vie, elles voient ça tous les jours, de manière répétitive, elle le partage. Et je trouve que c'est un métier qui est fascinant, enfin, qui est d'une difficulté majeure, dans des conditions de travail extrêmement difficiles, mal payées, avec des horaires pas possibles. Mais elles essayent parfois de remplir ce vide-là. On a vu des auxiliaires de vie, voilà, qui reviennent le week-end, qui savent que la dame ne pourra pas passer un coup de fil parce qu'elle n'entend strictement rien au téléphone pour avoir un rendez-vous. Donc elles prennent le rendez-vous, elles font... l'accompagne, elle. Sinon elle mourrait, enfin ces gens ils feraient quoi.
Et est-ce que toutes les personnes que vous avez rencontrées avaient cette envie de partir, ou il y en a certaines qui n'avaient pas trop envie?
C'est jamais très clair, c'est-à-dire il y a une dame qui n'est pas sortie depuis 12 ans de chez elle, qui elle ouvre ses volets, qui est pratiquement aveugle, à 10 cm de son visage, lui demande si elle voit, elle me voit, et elle me dit « je vois pas bien vos yeux », et qui entend très très mal, il faut que je lui hurle dans l'oreille, enfin je parle très très fort pour qu'elle entende. Cette dame, en fait, a beaucoup de... elle a 100 ans, elle a toute sa tête, c'est quelqu'un de formidable, enfin voilà, avec qui j'adore être, quoi. Et quand, à un moment donné... on a fait plein de choses qu'on a pu. On a essayé de faire entendre avec le casque, pour voir si avec le casque, la technologie, on faisait qu'on pouvait mieux se parler avec un micro, ce qui ne fonctionnait pas forcément. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, je lui ai demandé si elle avait envie d'aller sur le balcon et qu'elle s'est levée. Et donc, l'auxiliaire de vie était là ce jour-là, et on a fait les deux pas pour aller sur le balcon. J'ai ouvert la porte. Sauf que là, il y avait une marche à peu près de 20 cm qui fait que, alors qu'on était deux autour d'elle, elle a levé le pied, elle a senti un déséquilibre. Et donc, elle s'est tout de suite ravisée. Et ensuite, voilà, parce que c'était trop dur pour elle, juste à cause de cette marche. C'est ça qui est fou dans ce qu'elle raconte, cette dame qu'on a entendue. En plus, elle s'en rappelle très, très bien, les trois marches du bureau tabac. C'est que chaque chose devient extrêmement forte, quoi. Nous, on ne se rend pas compte, en
pénible.
Fait. Pénible. Je ne sais pas si, Josette, toi, tu peux en parler
de ça. C'est pénible. Mais oui, c'est vrai, c'est pénible.
Puis c'est ça qui fait qu'il y a une petite marge de 20 cm et c'est ça qui fait que pendant 12 ans, on ne va pas ne serait-ce que sur le balcon. Je trouve ça hallucinant, moi ça me...
Moi c'est pareil.
Parce que l'appartement il est fait comme ça quoi.
Et c'est des barrières qui viennent petit à petit. C'est des petit à petit, on a de plus en plus...
Oui, parce que le corps diminue, on se sent moins, on n'est plus sûr du tout. On n'est plus sûr du tout de nous. C'est pour ça.
De ses appuis.
Qu'il faut essayer d'essayer encore de faire, de se secouer. Il faut se secouer.
Mm-hmm. Pardon. Et donc, du coup, je pense que la question du désir, elle n'est pas. C'est pas toujours facile à savoir, quoi. Il y a des gens qui ont sans doute très envie, mais qui n'osent pas.
Qui ne l'imaginent même pas parce qu'en fait, ce n'est pas dans leur champ des possibles.
Ben quand ça fait 12 ans qu'on n'est pas sorti de son appartement, qu'on est aveugle et sourd, c'est quelque chose que d'aller dehors, quoi.
Ouais, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête que...
Voilà. Voilà, donc toute cette chose-là du voyage, elle met en jeu, que ça soit près ou loin, des choses fondamentales. Voilà, de la question de l'autonomie au sens très fort du terme, quoi. Donc après, la photographie là-dedans, elle est une manière de garder trace de tout ça, d'être dans un... Voilà, on a regardé aussi Google Maps sur des iPads, avec Arlette qui est là aussi. On a regardé une destination, c'est où. Tout à coup, il y a Google Earth, tac, on voit la rue. On voit la rue vue d'en haut, une photo. Ah, mais c'est incroyable, tiens, je retrouve la rue. Voilà, tous ces outils, les photos qu'on fait, nous, en off, des personnes qui ont des casques ou des appareils photo... Ça, c'est déjà étonnant en soi. Parce que
rien qu'avoir l'idée d'aller chercher autre chose que le quotidien.
C'est ça.
Je voulais te poser quelques questions, Zoé, avant la fin quand même, parce qu'on s'approche. Donc, c'est le premier projet que tu fais avec Tangible ?
Oui, c'est le premier projet.
Et pourquoi tu as décidé de rejoindre ce projet ?
Ah ben c'est mieux que décider, c'est que j'ai été invitée par Nadine, parce qu'on a travaillé dans un autre cadre avec... sur un territoire de Matésine, sur un projet collectif artistique. Et en fait, on s'entend tellement bien et je pense qu'on a une vision assez proche des personnes... en fait, voilà, des personnes, point. Donc après, que ça soit un gamin de 5 ans ou une vieille de 92, en fait, c'est la même. C'est qu'on lui parle, on se rencontre, on rigole et on fait des choses qu'on n'ose pas forcément faire dans la banalité du quotidien. Mais qui nous semble assez importante à expérimenter, à vivre, à écrire, à photographier. Et donc là, on est ensemble.
Et vous allez faire... qu'est-ce que vous voulez faire ensemble ? Toi, tu vas t'occuper du son plutôt ?
Alors, pour la première partie avec les auxiliaires de vie, oui, c'était... on a enregistré du son et donc c'est les extraits... enfin, le dernier extrait qu'on a entendu. Sinon, on se pose aussi beaucoup la question de comment... les gens, mes spectateurs, spectatrices, vont pouvoir regarder ça et les gens à qui on va offrir le carnet de voyage à l'issue de nos voyages. Et donc, il y a la photo qui est imprimable, mais le son ne l'est pas. Et donc, il faut avoir un ordinateur, il faut connaître la technologie. Et ça, il y a plein de gens pour qui c'est un obstacle. Donc, on repasse par l'écriture après, soit des choses très réelles et documentaires par rapport à ce qui a été dit, soit des transformations plus écrite. On travaille ensemble aussi sur cet aspect.
Et vous faites, vous n'avez pas de projet de vidéo ?
Alors, c'est l'étape d'après. Nadine est très embarquée dans l'idée qu'il y a une éthique de tout son projet, mais de toute son approche aussi photographique et culturelle qui est de En fait, c'est assez. Elle pense que c'est assez simple ce qu'elle fait et que on devrait tous s'adresser les uns aux autres. Les autres de cette manière-là, et on devrait tous prendre soin des uns des autres de cette manière-là. Et donc, elle, la vidéo, c'était pas forcément là pour ce projet-là, quelque chose qui l'intéressait, mais moi, étant réalisatrice de documentaires, j'ai très envie de travailler sur cette question du film, parce que c'est hyper cinématographique ce qu'on vit. Et voilà, de filmer une vieille dame de 92 ans qui mange une glace à l'italienne et qui s'en met partout, bah c'est beau. Et donc, prochaine étape, c'est le dossier de film pour essayer de produire quelque chose.
Sur ce projet ou un autre ?
Non, celui-là, comme on le connaît, comme on est en train de le vivre, bah c'est parfait pour élaborer un projet cinématographique ensuite.
Mm-hmm. Donc, Prendre la route, c'est un projet qui n'est pas... qui n'a pas atteint encore son terminus.
Bah, on verra, on vous racontera à Radio Campus.
En tout cas, pour l'instant, pas sur Prendre la route, mais à Tangible, en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des expositions qu'on diffuse pas mal, les expositions dont Eddy a parlé, des petites combines de la vie, dont le coffret est là, qui a pas mal tourné sur Grenoble et puis maintenant en région, mais aussi Still Living, voilà, il y a d'autres images. Et nous, c'est des expositions qu'on cherche à diffuser. Donc voilà, chers auditeurs, si vous avez des lieux, des envies de montrer ces images, vous pouvez aller sur le site de Tangible. Ça, c'est l'espace réclame. www.tangible.fr. Et là, il y a tout le... Voilà, il y a plein de choses, vous pouvez aller voir. Et les expos sont disponibles en fonction des calendriers, etc.
Très bien, bah merci pour ce petit mot qui est assez utile. Je vous conseille à tout le monde qui nous écoute d'aller voir sur le site Tangible, c'est vraiment des belles photos.
Je peux dire un mot ?
Ah oui, Arlette,
pardon.
Vous dire un mot avant la fin ?
Bon, écoutez, moi je suis très émue de tout ce que j'ai entendu. J'admire Josette, oh, je l'adore, parce qu'elle fait des choses merveilleuses. Moi, il n'y a pas très longtemps que je suis veuve. Je suis encore pas sortie de
du deuil
et je pense rentrer en résidence au mois d'octobre et je pense que je vous recevrai là-bas en résidence et vous serez, je crois, très bien reçue. Et j'appréhende un petit peu de rentrer en résidence parce que moi je suis en villa, je fais beaucoup de jardin, j'ai des fleurs, et je suis toujours dehors, voilà. Mais vous m'avez donné envie d'aller dans les arbres.
Et puis, n'importe comment, si vous avez un petit balcon, vous faites comme moi, vous mettez des fleurs.
Ah, mais j'en ai plein. J'ai même acheté une jardinière où j'ai mis des légumes.
Ah oui, moi, je ne mets pas de légumes, mais je mets des fleurs.
Mais j'allais être copine aux Alpins, ça va être super.
J'ai des fleurs de partout.
Ah oui. J'adore.
J'ai des fleurs partout.
Un balcon,
j'ai des
tout
rosiers,
garni.
J'ai des hortensias, j'ai des. Ça fait 40. Pardon. Ça fait 40 ans que je suis à Grenoble.
Ah oui, bah justement.
Et j'ai toujours fait mon jardin.
Ah oui, 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 c'est bien.
Voilà. Et ça m'a donné envie de continuer.
Et oui.
Super. Voilà.
Et il faut.
Je suis cette belle note de positivité. Oui. Merci, merci Arlette et merci Josette.
Merci à vous.
Merci Zoé, Nadine, Eddy et Martine. Et merci à Rémi qui a fait notre régie.
Oui, merci
Rémi.
Merci, merci.
Bonne soirée sur Radio Campus.
Oui.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.